Chapitre 49. Voir le monde se transformer. Ces tisflammes, par un fait qui ne relève guère de la coïncidence, comptaient parmi leurs rangs un grand nombre d'adeptes des arts, à savoir des écrivains, artistes, musiciens, peintres, sculpteurs. Compte tenu du tempérament général de cet ordre, il ne semble point inconcevable que les récits relatifs à leurs étranges et diverses capacités mnémoniques aient été quelque peu enjolivés. Extrait du livre des Radieux, chapitre 21, page 10. Après avoir laissé sa voiture dans une écurie du marché extérieur, Shallan se fit conduire à un escalier taillé à même la colline. Elle le gravit, puis s'avança d'un pas hésitant sur une terrasse elle-même sculptée dans un autre flanc de colline. Des pâles iris vêtues d'habits très élégants bavardaient par-dessus des coupes de vin autour des nombreuses tables en fer forgé du patio. Il se trouvait ici, à une altitude suffisante pour dominer les camps de guerre. L'angle de vue donnait vers l'est, en direction de l'origine. Quelle étrange disposition. Shallan se sentait exposée. Elle était habituée à ce que les balcons, jardins et patios soient tous orientés dans le sens inverse des tempêtes. D'accord, personne ne se trouvait sans doute ici lorsqu'on attendait une tempête majeure. Mais tout ça lui semblait malgré tout anormal. Une maîtresse servante, en noir et blanc, arriva et s'inclina en l'appelant Clarissime Davar, sans qu'elle ait besoin de se présenter. Elle allait devoir s'y habituer. En Aletkar, elle était une curiosité, donc facilement reconnaissable. Elle laissa la servante la guider parmi les tables et envoya ses gardes du jour en direction d'une pièce plus grande taillée dans la pierre sur la droite. Celle-ci possédait un toit et des murs adéquats, conçus de manière à pouvoir refermer entièrement l'espace. Et un groupe d'autres gardes y attendait le bon vouloir de leur maître. Shallan attira l'attention des autres clients. Eh bien, tant mieux. Elle était venue ici pour chambouler leur univers. Plus les gens parlaient d'elle, meilleures étaient ses chances de les persuader, le moment venu, de l'écouter au sujet des parches. Ils étaient partout dans le camp de guerre, même ici, dans cette luxueuse taverne. Elle en aperçut trois dans le coin, qui retiraient des bouteilles de vin des présentoirs fixés au mur pour les placer dans des caisses. Ils se déplaçaient à une allure pesante mais implacable. Quelques pas supplémentaires la conduisirent au garde-corps en marbre situé juste au bord de la terrasse. Là, Adoline avait fait installer une table à l'écart des autres, avec une vue dégagée qui donnait droit vers l'est. Deux gardes de la maison de Dalinar se tenaient près du mur un peu plus loin. Adoline était apparemment assez important pour que ses gardes n'aient pas à attendre avec les autres. Ils parcouraient un in-folio, conçu dans des dimensions assez grandes pour qu'on ne le prenne pas pour un livre de femmes. Shallan avait vu des in-folios contenant des cartes de bataille. D'autres des modèles d'armure ou des images d'architecture. Elle fut amusée lorsqu'elle aperçut les glyphes que contenait celui-ci, soulignés d'une inscription rédigée par une femme pour plus d'éclaircissement. Il s'agissait de gravures de mode de Liafor et d'Azir. Adoline était toujours aussi séduisant. Peut-être même davantage à présent qu'il était visiblement plus détendu. Elle n'allait pas le laisser lui embrouiller les idées. Elle avait un objectif en venant à ce rendez-vous. Une alliance avec la maison Colline pour aider ses frères à obtenir les ressources nécessaires permettant de dévoiler la nature des néantifères et de découvrir Ouritirou. Elle ne pouvait pas se permettre d'apparaître comme faible. Elle devait contrôler la situation et ne pouvait pas se comporter comme une flagorneuse, pas plus qu'elle ne pouvait. Adoline l'aperçut et referma son in-folio. Il se leva, un sourire aux lèvres. Oh, nom des foudres, ce sourire. Clarissime Shallan, dit-il en lui tendant la main, êtes-vous bien installée dans le camp de Sébarial ?
Oui,
répondit-elle en lui souriant. Cette crinière indisciplinée lui donnait envie de tendre la main pour y passer les doigts. Nos enfants auraient les cheveux les plus étranges au monde, songea-t-elle. Entre ses mèches à laitie or et noir, mais rousse et... Était-elle réellement en train de penser à leurs enfants? Déjà? Petite idiote.
Oui,
poursuivit-elle en s'efforçant de reprendre contenance. Il s'est montré très gentil avec moi. Sans doute parce que vous faites partie de la famille, répliqua Adeline, qui attendit qu'elle soit assise avant de pousser sa chaise. Il le fit lui-même plutôt que de laisser la maîtresse servante s'en charger. Elle ne s'y serait pas attendue de la part de quelqu'un d'aussi haute naissance. Sébarial ne fait ce genre de choses que lorsqu'il s'y sent contraint.
« Je crois qu'il pourrait vous surprendre, » déclara Chalan.
« Oh ! Et il l'a déjà fait à plusieurs occasions. »«
Vraiment ? Lesquelles ?»«
Eh bien, » répondit Adeline en s'asseyant, « il lui est arrivé un jour d'émettre un bruit très... très fort et inapproprié lors d'une réunion avec le roi. » Adeline sourit, haussa les épaules comme sous l'effet de l'embarras, mais il ne rougit pas comme l'aurait fait Chalan dans une situation similaire. « Est-ce que ça compte ?»«
Je ne sais pas trop.
Sachant ce que je sais de mon oncle Sébarial, je doute qu'une telle chose soit particulièrement surprenante de sa part. Elle serait même plutôt attendue. » Adeline éclata de rire en rejetant la tête en arrière.
« Oui, vous avez sans doute raison, je vous l'accorde. »
Il semblait tellement sûr de lui. Pas d'une manière particulièrement suffisante, comme le père de Chalan. En réalité, elle se rendit compte que l'attitude de son père ne trahissait pas l'assurance, mais plutôt le contraire. Adeline semblait parfaitement à l'aise aussi bien avec son rang qu'avec ceux qui l'entouraient. Lorsqu'il fit signe à la maîtresse servante de lui apporter la carte des vins, il lui sourit, bien qu'elle soit sombre iris. Ce sourire suffit à faire rougir la maîtresse servante elle-même. Chalan était censé obtenir de cet homme qui la courtise. Bourrasque. Elle s'était sentie beaucoup plus compétente lorsqu'elle essayait d'arnaquer le chef des Cent des Spectres. Adeline évolue parmi l'élite, et il a eu des relations avec les dames les plus sophistiquées du monde. C'est ce qu'il attendra de toi. Donc, reprit-il en parcourant la carte des vins, décrite par des glyphes, nous sommes censés nous marier.
À votre place, clarissime, j'allégerai cette formulation, conseilla Chalan, choisissant ses mots avec soin. Nous ne sommes pas censés nous marier. Votre cousine Jasna voulait simplement que nous envisagions la possibilité d'une union, et votre tante semblait approuver cette idée.
Le Tout-Puissant est pitié d'un homme dont les parents de sexe féminin s'associent pour préparer son avenir, répondit Adeline en soupirant. Évidemment, Jasna avait parfaitement le droit d'atteindre l'âge moyen, sans conjoint. Mais si je célèbre mon 23e anniversaire sans épouse, on dirait que je représente une sorte de menace. C'est plutôt sexiste de sa part, vous ne trouvez pas ?
« Eh bien, elle voulait que je me marie, moi aussi, » rétorqua Chalan. « Donc je ne la qualifierai pas de sexiste, simplement de jasnaïste. »
Elle hésita.
« Jasnazogine ? Non, flûte. Il faudrait que ce soit misogasne. » « Et ça sonne pas très bien, vous ne trouvez pas ?»«
C'est à moi que vous demandez ça ?» répondit Adeline en retournant le menu pour qu'elle puisse le voir. « Que pensez-vous que nous devrions commander ?»
« Nom des foudres » souffla-t-elle. « Ce sont toutes des sortes de vins différentes ?»«
Oui, » répondit Adeline, qui se pencha vers elle d'un air conspirateur. « En toute franchise, je n'y prête pas une grande attention. Rénarine sait toutes les différencier. Si vous le laissez faire, il radotera sans s'arrêter. Moi, j'en commande toujours un dont le nom suggère un excellent cru, mais en réalité je me fonde uniquement sur la couleur. » Il grimaça. « Nous sommes en guerre, techniquement. » Je ne vais pas pouvoir en prendre un qui soit trop alcoolisé au cas où. C'est idiot, car il n'y aura pas de course au pont aujourd'hui.
Vous êtes sûr ? Je croyais qu'elles étaient aléatoires.
C'est vrai. Mais mon camp de guerre n'est pas prêt. Et puis elles ne se produisent jamais si près de l'arrivée d'une tempête majeure. Il se laissa aller en arrière et parcourut le menu avant de désigner l'un des vins et d'appeler la servante par un clin d'œil. Un grand froid envahit Chalan.
Attendez. Une tempête majeure ?
Oui, répondit Adeline en étudiant l'horloge située dans le coin. Sébarial avait déclaré qu'elles étaient de plus en plus fréquentes par ici. Elles ne devraient plus tarder. Vous n'étiez pas au courant ? Elle s'étrangla en regardant vers l'est, vers le paysage craquelé.
Garde ton sang-froid, se dit-elle. Reste élégante.
Au lieu de quoi, une partie primitive d'elle-même avait envie de chercher un trou pour s'y cacher. Elle s'imagina soudain sentir la pression baisser, comme si l'air lui-même cherchait à s'échapper. La voyait-elle commencer là-bas ? Non, ce n'était rien. Elle plissa les yeux malgré tout.
« Je n'ai pas consulté la liste des tempêtes de Sébarial, »
s'obligea-t-elle à répondre.
« En toute franchise, le connaissant, Elle devait être périmée. J'étais très occupée.
Ah ? Fit Adeline. Je me demandais pourquoi vous ne me posiez pas de questions sur cet endroit. Je pensais simplement que vous en aviez déjà entendu parler.
Cet endroit. Ce balcon ouvert orienté vers l'est. Les pâles iris en train de boire du vin lui paraissaient maintenant attendre quelque chose et dégager une impression de nervosité.
La présence de la seconde pièce, la grande réservée aux gardes du corps avec ses portes robustes, lui semblait à présent bien plus logique.
« Nous sommes ici pour la regarder ?»
murmura Shallan.
« C'est la nouvelle mode, » expliqua Adeline. « Apparemment, nous sommes censés rester assis ici jusqu'à ce que la tempête soit pratiquement sur nous, puis nous précipiter dans l'autre pièce pour nous y abriter. Voilà des semaines que je voulais venir ici, et je viens à peine de réussir à convaincre mes gardiens que j'y serai en sécurité. »
Il avait prononcé ces derniers mots avec amertume.
« Nous pouvons nous rendre dès maintenant dans la pièce sécurisée, si vous le souhaitez. »«
Non, »
répondit Shallan, s'obligeant à desserrer ses doigts qui agrippaient le bord de la table.
« Ne vous en faites pas pour moi. »
« Je vous trouve bien pâle.
C'est mon teint naturel. »«
Parce que vous êtes Veden ?»«
Parce que je suis toujours au bord de la panique ces jours-ci. »« Tiens, est-ce notre vin qui arrive ?»«
Sans froid, » se rappela-t-elle une fois de plus. Elle fit de gros efforts pour ne pas regarder vers l'est. La servante leur avait apporté deux coupes d'un vin bleu vif. Adeline prit le sien et l'étudia. Il le flaira, en goûta une gorgée, puis hocha la tête d'un air satisfait et congédia la servante d'un sourire. Il contempla ses fesses tandis qu'elle s'éloignait.
Shallan le regarda en haussant un sourcil, mais il ne parut pas se rendre compte qu'il avait fait quelque chose de mal.
Il se retourna vers Shallan et se pencha de nouveau vers elle.
« Je sais qu'on est censé faire tourner le vin dans sa bouche et le goûter, » murmura-t-il. « Mais personne ne m'a jamais expliqué ce que je dois y chercher. »«
Des insectes qui flottent dans le liquide, peut-être ?»«
Non, mon nouveau goûteur les aurait repérés. »
Il sourit, mais Shallan comprit qu'il ne plaisantait sans doute pas. Un homme maigre, qui ne portait pas d'uniforme, s'était approché des gardes pour bavarder avec eux. Le goûteur, probablement. Shallan testa son vin. Il était bon, légèrement douceâtre, un rien épicé. Cela dit, elle avait du mal à se concentrer sur son goût, avec cette tempête.
« Arrête !» se dit-elle en souriant à Adeline. Elle devait s'assurer que ce rendez-vous se passe bien pour lui.
« Fais-le parler de lui !»
c'était un conseil qu'elle se rappelait avoir lu dans ses livres.
« Les attaques de plateau !»
commença-t-elle.
« Comment savez-vous quand les démarrer ?»«
Ah, nous avons des guetteurs !» répondit Adeline en se prélassant sur sa chaise. Des hommes qui se tiennent au sommet des tours avec d'énormes longues vues. Ils inspectent chaque plateau que nous puissions atteindre dans un délai raisonnable et cherchent les chrysalides.
J'ai entendu dire que vous en aviez capturé un certain nombre.
Eh bien, je ne devrais sans doute pas en parler. Mon père ne veut plus que ce soit une compétition.
Il la regarda avec l'air d'attendre quelque chose.
Mais vous devez tout de même bien pouvoir parler de ce qui s'est déjà passé,
reprit Shallan, qui eut l'impression de tenir un rôle.
« Sans doute, » répondit Adeline.
« Il y a eu une course, il y a quelques mois, au cours de laquelle je me suis emparée de la chrysalide pratiquement tout seul. Voyez-vous, mon père et moi avions l'habitude de commencer par sauter au-dessus du gouffre, puis de dégager la voie pour les ponts.
« N'est-ce pas dangereux ?»
demanda Shallan, qui le regarda consciencieusement en ouvrant de grands yeux.
« Oui, mais nous sommes des porte-éclats. Nous tenons notre force et nos capacités du Tout-Puissant. C'est une grande responsabilité, et il est de notre devoir de nous en servir pour protéger nos hommes. Nous sauvons des centaines de vies en traversant les premiers. C'est ce qui nous permet de guider l'armée. »
Il marqua un temps d'arrêt.
« Quel courage !»
déclara Shallan d'une voix qu'elle espérait voilée et pleine d'admiration.
« En réalité, il faut bien que ce soit fait. »
Mais c'est effectivement dangereux. Ce jour-là, j'ai franchi le gouffre. Mais mon père et moi nous sommes retrouvés séparés des autres par les Parchendi. Il s'est vu contraint de sauter en sens inverse, et il avait reçu un coup à la jambe, à cause duquel sa jambière, c'est une pièce d'armure, s'était fendue lors de l'atterrissage. Il était donc dangereux qu'il saute à nouveau. Je me suis retrouvée seule tandis qu'il attendait que le pont soit mis en place. Nouvelle interruption. Elle était sans doute censée lui demander ce qui s'était passé ensuite.
« Et si vous devez faire vos besoins ? »
demanda-t-elle à la place. « Eh bien, j'ai tourné le dos au gouffre, commencé à distribuer des coups d'épée et... »
« Un instant, que m'avez-vous demandé ?»«
Vos besoins, » répondit Shallan.
« Vous êtes là, en plein milieu d'un champ de bataille, enfermé dans le métal comme un crabe dans sa carapace. Et si un besoin naturel se fait sentir ?»«
Adoline la regarda d'un air pensif. « Jamais encore une femme ne m'a demandé ça. »
« Un bon point pour mon originalité !»
s'exclama Shallan, mais elle rougit en prononçant ces mots. Jasna aurait été mécontente. Shallan ne pouvait-elle pas tenir sa langue le temps d'une conversation? Elle avait réussi à le faire parler de quelque chose qu'il aimait. Tout se passait bien, jusqu'à présent. Et maintenant ?«
Eh bien, » répondit lentement Adoline, « chaque bataille comporte des baisses de rythme et les hommes se relaient en première ligne. » Pour 5 minutes où l'on se bat, on en a souvent tout autant pour se reposer. Quand un porte-éclat se retire, les hommes inspectent son armure en quête de fissures, lui donnent à boire ou à manger et l'aident pour ce que vous venez de dire.
Ce n'est pas un très bon sujet de conversation, Clarissime.
Nous n'en parlons pas vraiment.
C'est précisément ce qui en fait un bon sujet de conversation, protesta-t-elle. Je peux entendre parler de guerre, de porte-éclat et de combats glorieux dans les récits officiels. En revanche, les détails les plus sales, personne n'écrit dessus.
Je vous l'accorde, c'est un peu sale, répondit Adoline en grimaçant, avant de boire une gorgée de vin.
On ne peut pas vraiment...
Je n'en reviens pas d'être en train de dire ça. On ne peut pas vraiment s'essuyer quand on porte une cuirasse et il faut donc que quelqu'un le fasse pour vous. Ça me donne l'impression d'être un bébé. Et puis... Parfois, on n'a tout simplement pas le temps.
Et il étudia d'un air très concentré.
Qu'y a-t-il ? Demanda-t-elle.
Je cherche à déterminer si vous n'êtes pas Malice portant une perruque.
C'est le genre de choses qu'il m'obligerait à faire.
Je ne vous oblige à rien du tout, se défendit-elle. Je suis curieuse, tout simplement.
En toute franchise, elle l'était réellement. Elle avait déjà réfléchi à cette question. Peut-être plus qu'elle ne le méritait.
« Eh bien, » répondit Adoline, « si vous tenez absolument à le savoir, un vieil adage du champ de bataille enseigne qu'il vaut mieux être embarrassé que mort. Vous ne pouvez rien laisser détourner votre attention du champ de bataille.
Donc ?»«
Donc, oui, moi, Adoline Colline, cousin du roi, héritier de la principauté Colline, j'ai déjà fait dans ma cuirasse d'éclat. 3 fois, et volontairement. » Il vida d'un trait le reste de son vin.
« Vous êtes une femme très étrange. »«
S'il faut vraiment que je vous le rappelle, » répondit Shallan, « c'est vous qui avez commencé notre conversation tout à l'heure par une plaisanterie sur les flatulences de Sébarial. »
« Eh bien oui, sans doute. » Il sourit. « Ce n'est pas exactement censé se dérouler ainsi, n'est-ce pas ?»«
Est-ce une mauvaise chose ?»«
Non, » admit Adoline. Puis son sourire s'élargit. « En fait, c'est même plutôt rafraîchissant. » Savez-vous combien de fois j'ai raconté cette histoire, où j'ai sauvé la course au pont ?
Je suis persuadée que vous vous êtes montré très courageux.
Très.
Cela dit, sans doute pas autant que les pauvres gens qui doivent nettoyer votre armure.
Adoline éclata d'un rire sonore. Pour la première fois, il sembla sincère, témoignant d'une émotion qui n'était ni calculée, ni attendue. Il cogna du poing sur la table, puis demanda d'un geste qu'on lui apporte encore du vin. Et s'essuya une larme au coin de l'œil. Le sourire dont il gratifia Shallan menaça de la faire rougir à nouveau.
« Attends, » songea-t-elle, « est-ce que ça vient de fonctionner ?» Elle était censée se montrer féminine et délicate, pas demander aux hommes quel effet ça faisait de déféquer en plein combat.
« Bon, » dit Adoline en prenant la coupe de vin, sans même accorder un coup d'œil à la servante cette fois-ci. « Quels autres secrets honteux voulez-vous connaître ?»«
Vous m'avez mise à nu. » Il y a des centaines de choses dont les histoires et les documents historiques ne parlent pas.
« Les chrysalides, » dit Shallan avec empressement. « À quoi ressemblent-elles ? »
« C'est ce que vous voulez savoir ?» répondit Adoline en se grattant la tête. « J'étais persuadée que vous alliez vouloir m'entendre parler des irritations. »
Shallan sortit sa sacoche, posa une feuille sur la table et se mit à dessiner.
« D'après ce que j'ai pu déterminer, personne n'a jamais fait de recherche poussée sur les démons des gouffres. Il y a des croquis de démons morts, mais c'est tout. Et les détails anatomiques y sont atrocement mal représentés. Ils doivent posséder un cycle de vie intéressant.
Ils hantent ces gouffres, mais je doute qu'ils y vivent vraiment. Il n'y a pas assez de nourriture pour des créatures de cette taille. Ça signifie qu'elles viennent ici dans le cadre d'une sorte de mouvement migratoire, pour devenir des chrysalides. Avez-vous déjà vu des jeunes, avant qu'ils ne forment leur chrysalide ?
Non, répondit Adeline en faisant le tour de la table pour rapprocher sa chaise.
Ça se produit souvent la nuit, et nous ne les repérons qu'au matin. Ils sont difficiles à distinguer là-dehors, comme ils ont la couleur de la pierre. Ce qui me conduit à penser que les Parshendi doivent nous surveiller. Nous sommes si souvent en train de nous battre pour des plateaux. Ça peut signifier qu'ils nous aperçoivent en train de nous mobiliser, puis déduisent l'emplacement de la chrysalide en voyant dans quelle direction nous partons. Nous disposons d'un avantage initial. Mais ils traversent les plaines plus rapidement, et nous arrivons donc à peu près en même temps.
Il laissa sa phrase en suspens et pencha la tête sur le côté pour mieux voir le croquis de Shallan.
Nom des bourrasques, c'est très réussi, Shallan.
Merci.
Non, je veux dire très réussi.
Elle avait tracé un croquis rapide des différents types de chrysalides rencontrés dans ses lectures, ainsi qu'un homme rapidement esquissé près d'eux, pour donner une échelle de taille. Ce n'était pas très bon. Elle l'avait fait très rapidement. Pourtant, Adeline semblait sincèrement impressionnée.
La forme et la texture de la chrysalide, déclara Shallan, pourraient nous aider à placer les démons des gouffres dans une famille d'animaux similaires.
C'est à celle-ci qu'elle ressemble le plus, répondit Adeline, qui s'approcha pour désigner l'un des croquis. Celle que j'ai touchée était dure comme la pierre. C'est difficile d'en percer une sans lame d'éclat. Ça peut nécessiter une multitude d'hommes armés de marteaux.
Commenta Shallan en griffonnant une note. Vous en êtes sûr?
Oui. C'est à ça qu'elle ressemble.
Pourquoi? C'est une chrysalide de Yunerig, expliqua Shallan. Un magnécoque des mers qui entoure Marabetia. J'ai entendu dire que les habitants de la région leur jetaient les criminels en pâture.
Oui.
Il pourrait s'agir d'un faux positif, d'une coïncidence. Les Yunerig sont une espèce aquatique. Ils ne viennent sur la Terre qu'à une seule occasion, pour devenir chrysalides. Il me semble un peu forcé de supposer un lien avec les démons des gouffres.
D'accord, répondit Adeline en buvant une gorgée de vin, si vous le dites.
C'est sans doute important, fit remarquer Shallan.
Pour les recherches,
oui, je sais.
Ma tante Navani parle tout le temps de ce genre de choses.
Ça pourrait être d'une importance plus pratique que ça, répondit Shallan. Combien de ces créatures, environ, sont tuées chaque mois par vos armées et par les Parshendi?
Adeline haussa les épaules. Une tous les 3 jours, je dirais. Parfois plus, parfois moins. Donc, une quinzaine par mois?
Vous voyez le problème?
Adeline secoua la tête. Non, désolé. Je suis très mauvais pour tout ce qui n'implique pas des armes blanches. Elle lui sourit.
Ne dites pas de bêtises. Vous vous êtes révélé doué pour choisir le vin.
Plus ou moins au hasard.
Et il est délicieux, répondit Shallan. Une preuve empirique de votre méthodologie. Donc, si vous ne voyez pas le problème, c'est sans doute parce que vous ne disposez pas des faits adéquats. Les magnécoques, en règle générale, sont lents à se reproduire et lents à grandir. C'est parce que la plupart des écosystèmes ne peuvent nourrir qu'une population limitée de super-prédateurs de cette taille. J'ai déjà entendu certains de ces mots.
Elle le regarda en haussant les sourcils. Il s'était beaucoup approché d'elle afin d'inspecter son dessin. Il portait un soupçon de parfum à la senteur fraîche et boisée. Oh là là.
D'accord, d'accord, reprit-il, en gloussant de rire tout en inspectant ses dessins.
Je ne suis pas aussi bouché que je le laisse paraître. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous pensez réellement que nous pourrions en tuer un nombre assez grand pour que ça pose problème? Enfin, les gens se livrent à des chasses aux magnécoques depuis des générations, et ces bêtes sont toujours là.
Ce que vous faites ici, Adeline, ça ne revient pas à les chasser. Vous les récoltez. Vous détruisez systématiquement leur population juvénile. Ont-ils été moins nombreux à devenir chrysalides ces derniers temps?
Oui, dit-il, bien qu'il soit réticent à lui répondre. Nous pensons que c'est peut-être la saison.
Peut-être. Ou bien il se peut que leur population commence à décroître après plus de 5 années de récolte. En temps normal, les animaux comme les démons des gouffres n'ont pas de prédateurs. La perte soudaine de plus de 150 spécimens par an pourrait avoir un effet catastrophique sur leur population.
Adeline fronça les sourcils.
Les cœurs de gemmes que nous récoltons nourrissent la population des camps de guerre. Sans un afflux constant de nouvelles pierres de taille raisonnable, celles dont nous disposons pour les spiricantes vont finir par se briser, et nous ne pourrons plus nourrir les armées qui se trouvent ici.
Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter de les chasser, répondit Shallan en rougissant.
Elle n'aurait sans doute pas dû aborder ce sujet. Ouritirou et les Parches, voilà quel était le problème immédiat. Malgré tout, elle devait gagner la confiance d'Adoline. Si elle parvenait à se rendre utile par rapport aux démons des gouffres, peut-être l'écouterait-il lorsqu'elle lui présenterait des idées encore plus révolutionnaires.